Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le septième jour de l'invasion de la Russie en Ukraine, un troisième conseil de défense consacré à cette guerre s'est tenu ce mercredi en France. L'Union africaine se dit préoccupée par le traitement infligé aux Africains qui veulent fuir l'Ukraine. Notre invité sera le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Trois Palestiniens ont été tués hier par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, une annonce du ministère palestinien de la Santé. En Libye, le Parlement approuve un gouvernement rival à celui de Tripoli. La France confirme le financement de projets humanitaires franco-saoudiens au Liban, le pays en proie à une très grave crise sociale et économique et à de multiples pénuries. Les principaux candidats à l'élection présidentielle invités à débattre du volet handicap de leur programme. Une première session a lieu ce jeudi. Initiative du collectif Handicap. Son coordinateur, Stéphane Lenoir, sera l'un de nos invités. Le mercredi des cendres marque le début du carême pour les chrétiens. Le pape François appelait à une journée de prière et de jeûne pour la paix en Ukraine. Nous y reviendrons avec l'ex-directeur des relations avec les musulmans au sein de l'Église catholique, Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon. Il a eu lieu ce mercredi un nouveau conseil de défense consacré à l'Ukraine, le troisième depuis le début jeudi de l'invasion russe. L'OTAN a renforcé sa présence militaire en Europe. Parmi les centaines de milliers de personnes qui tentent de fuir l'Ukraine vers les pays voisins figurent de nombreux ressortissants africains. Les accusations de comportement raciste à leur égard se multiplient. L'Union africaine s'est dite particulièrement préoccupée. Entretien avec le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.
D'abord, évidemment, il faut faire remarquer qu'on est dans une situation exceptionnelle, dans une situation de chaos, comme malheureusement il y a lorsqu'on est face à des agressions armées ici de la part de Poutine sur un pays, avec ces scènes de réfugiés auxquelles on assiste aujourd'hui. Et qu'il y a de toute façon une difficulté évidemment globale pour toute une série de personnes qui veulent franchir les frontières, parce qu'on sait bien malheureusement qu'il y a aussi des réticences parfois à accueillir des réfugiés, et que lorsqu'on est à un pays, il y a parfois cette tentation de voir si la situation ne se calme pas avant d'ouvrir vraiment ces frontières sans restriction. Le deuxième élément, c'est que se déroule une discrimination documentée qui a pu frapper des personnes, notamment d'origine africaine ou des personnes noires. Les témoignages se sont succédés. La problématique est ici double. D'abord, j'entends bien que le président en exercice de l'Union africaine s'émeuve aujourd'hui du sort de ressortissants africains à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, notamment. Mais c'est toujours quand même un peu embêtant, je le dis, de voir les pays d'Afrique subsaharienne souvent se réveiller lorsqu'il y a des émotions sur les réseaux sociaux. La situation de guerre qui se préparait, la situation d'instabilité de l'Ukraine aurait dû pousser quand même les chancelleries de ces différents pays à être davantage dynamiques dans les demandes d'évacuation de leurs réfugiés, de leurs ressortissants, pardon, avant qu'ils se retrouvent comme ça brutalement sur des routes de l'exode. Le deuxième élément, c'est que au-delà, de toute façon, peu importe la défaillance des pays africains en la matière, de toute façon, aux frontières, il faut qu'il y ait un traitement qui soit sans discrimination, et les frontières doivent être ouvertes de façon inconditionnelle à toutes les personnes, quels que soient les papiers qu'elles auraient à faire valoir pour qu'elles puissent se mettre à l'abri en dehors de l'Ukraine. Donc c'est la demande que nous formulons, comme beaucoup d'autres organisations, en situation de guerre. On ne commence pas à faire des chicayas sur la qualité administrative des papiers que les gens présentent. On laisse passer les gens, on les met à l'abri, on fait en sorte qu'ils soient nourris et qu'ils soient abrités. dans une situation d'urgence que tout le monde comprendra.
Comment avez-vous accueilli Dominique Sopo, président de SES Racisme, cet appel lancé notamment par le ministre de l'Intérieur aux maires susceptibles de mettre en place des dispositifs d'accueil pour les réfugiés ukrainiens, Gérald Darmanin, qui invite les maires à se mobiliser?
Écoutez, il y a une solidarité qui se met en place, elle est bienvenue. Je pense que lorsqu'il y a la guerre sur le sol européen, en l'espèce, il faut savoir ouvrir ses frontières aux réfugiés. Je ferai remarquer que cela était un peu moins le cas lorsque c'était des réfugiés syriens et irakiens il y a quelques années, parfois dans la bouche des mêmes personnages qui aujourd'hui parlent d'accueil, bref. Mais quoi qu'il en soit, évidemment, lorsque la guerre ravage un territoire, il faut savoir faire droit à l'accueil, au partage, à la solidarité, même si cela coûte de l'argent au pays qui exerce cette solidarité. Et contrairement à ce que disent de sinistres personnages, d'ailleurs très pro-Poutine, à l'image d'Éric Zemmour, non, ce n'est pas que à la Pologne d'accueillir des réfugiés. Les réfugiés doivent pouvoir venir dans toute l'Europe, être répartis dans toute l'Europe, pour que des accueils dignes soient réalisés le plus possible.
Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Trois Palestiniens ont été tués hier par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée. Une annonce du ministère de la Santé palestinien. Parmi eux, un homme qui résidait dans le camp de réfugiés d'Al-Haroub, au nord d'Hébron. Il a été tué près de la ville de Beit Fajar. Plus tôt dans la journée, deux autres Palestiniens soupçonnés d'être membres du djihad islamique avaient été tués lors d'une opération israélienne. En Libye, le Parlement approuve un gouvernement rival à celui de Tripoli, gouvernement dirigé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Fatih Bachara, cela alors que l'actuel chef du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Bébé, refuse de céder les rênes du pays. La Libye se retrouve ainsi avec deux gouvernements rivaux. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, confirme le financement franco-saoudien de projets humanitaires destinés à la population libanaise, cela au lendemain d'une annonce similaire faite par Riyad. Il s'agit de la mise en place d'un premier fonds humanitaire à destination des hôpitaux et des centres de soins, ainsi qu'aux institutions liées à l'éducation et aux ONG. Cela alors que le Liban est en proie à de multiples pénuries et traverse une situation économique et sociale catastrophique. En France, les principaux candidats à l'élection présidentielle les 10 et 24 avril prochains sont invités à débattre du volet handicap de leur programme. Le collectif Handicap leur donne rendez-vous ce jeudi, ainsi que le 14 mars de 9h à 13h pour un grand oral handicap. Le coordinateur du collectif Handicap, Stéphane Lenoir.
Pour le collectif Handicap et puis pour les personnes qui le représentent, il nous a semblé important, de faire émerger la question du handicap dans la campagne électorale. Aujourd'hui encore, on considère que le sujet, il n'est pas assez porté par les candidats. Et donc, on a eu le besoin et on pense que les personnes en situation de handicap, les familles et puis également les proches aidants ont besoin de précision et puis de voir très concrètement quel est le volet handicap des programmes des candidates et candidats à l'élection présidentielle.
Et concrètement, quelles sont les principales mesures, les principales propositions que vous attendez de la part des candidats?
Nous, on a fait un travail avec nos adhérents et on pense que la campagne, elle doit au moins se positionner sur cinq sujets majeurs et dont le premier qui nous semble extrêmement important parce que il nous semble que c'est un vrai sujet de société, c'est la cinquième branche autonomie. Aujourd'hui, on en a fait une construction juridique, mais on en attend encore le contenu et puis surtout la manière dont ça peut être financé. Ça, pour nous, c'est un vrai sujet de campagne. Et puis, on a également des sujets que les associations portent maintenant depuis des décennies, comme la question de l'accessibilité. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels on attend le positionnement des candidats. Alors il y en a d'autres, hein, si on se réfère à l'actualité, il y a évidemment toute la question de l'attractivité des métiers et puis de manière plus large, la manière dont on peut garantir la qualité de l'accompagnement des personnes. Se pose aussi la question, puisque ça a été quand même une grosse séquence pendant le quinquennat, la question des ressources de l'AH, mais il n'y a pas que l'AH, il y a en règle générale la question d'un revenu minimum d'existence que nous, nous souhaitons au moins à hauteur du niveau de seuil de pauvreté. Et puis enfin, se pose la question de la place des corps intermédiaires et de la place des associations représentatives dans la construction des politiques publiques.
Pouvez-vous nous rappeler les dispositions de la cinquième branche autonomie ?
La cinquième branche autonomie, donc c'est une construction jeune qui a notamment pour fonction de soutenir l'autonomie, alors à la fois des personnes handicapées, mais aussi des personnes âgées. Et donc en fait, ça concerne tout le monde. Alors aujourd'hui, on en attend encore, comme je vous l'indiquais, le contenu. Hein, aujourd'hui, c'est pas très clair. Il y a, on va dire, ce qui existait déjà et qui était porté par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Mais on en attend davantage. Et puis surtout, se pose une question majeure qui est le financement. Nous, on considère que pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, il va falloir trouver 10 milliards. Donc c'est pas une petite somme et donc c'est un vrai enjeu de campagne électorale.
Et avez-vous relevé des propositions intéressantes émanant de différents candidats à la présidentielle pour le moment ?
Effectivement, il y a des candidats qui d'ailleurs ont repris quelques-unes de nos propositions. On peut dire que globalement, les candidats se sont positionnés sur la déconjugalisation de l'AAH, hein, puisque ça a été un sujet, encore une fois, qui a été évoqué, débattu longuement au sein du quinquennat. Et donc, bon, voilà, les candidates et candidats sont cohérents, en tout cas, avec leur parti et portent cette question-là. Et puis après, chacun y met ses propositions. Alors parfois, elles sont pas suffisamment claires et ce sera l'objet du grand oral des 3 et 14 mars.
Quel bilan faites-vous de l'action de l'exécutif concernant la question du handicap et quelles avancées avez-vous notées ?
Concernant le quinquennat, oui, on peut relever des avancées, même si globalement on est insatisfait, mais effectivement il y a des avancées. Nous, la première avancée qu'on peut noter, c'est notamment le vote des personnes majeures qui sous tutelle. Donc ça, il nous semble que c'est une vraie avancée à la fois symbolique, mais aussi pour les personnes et tout simplement pour qu'elles puissent aller voter, puisque c'était pas possible avant. On peut noter aussi quand même que sur la question de l'école, effectivement, il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap qui vont à l'école ordinaire. Donc ça, il faut quand même le reconnaître. Même si, de notre point de vue, effectivement, c'est à la fois pas suffisant, mais surtout, on note encore des manquements en termes de qualité de l'accompagnement.
Il y a, je crois, 12 millions de personnes aujourd'hui en situation de handicap en France qui sont touchées par un handicap visible ou invisible. C'est aussi un enjeu électoral. Vous avez l'impression, le sentiment que les candidats l'ont compris cela ?
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on va considérer qu'il y a en France 12 millions de personnes en situation de handicap. Je pense qu'effectivement, les candidates et candidats ont compris qu'il y avait un vrai enjeu et que ça concernait en fait quasiment une famille sur cinq. Donc ce sont des personnes qui attendent aussi des réponses des candidates et candidats à l'élection présidentielle parce que au quotidien, ce sont des personnes qui subissent des discriminations quotidiennes et donc elles attendent des réponses. Et puis j'ai envie de souligner aussi que tout ce qu'on va proposer pour ces 12 millions de personnes en situation de handicap, en réalité, ça va servir à tout le monde.
Le coordinateur du collectif Handicap, Stéphane Lenoir. Christiane Taubira ne sera pas candidate à l'élection présidentielle. L'ex-garde des Sceaux n'a pas obtenu le nombre de parrainages nécessaires pour se présenter. Elle était pourtant arrivée en tête de la primaire populaire organisée le mois dernier. Le mercredi des cendres marque le début du carême pour les catholiques. Le pape François a appelé à une journée de prière et de jeûne pour la paix en Ukraine. Le carême est une période de préparation spirituelle pour la fête de Pâques, quand les chrétiens célébreront la résurrection du Christ. La semaine sainte, elle, commencera avec le dimanche des Rameaux, le 10 avril. Entretien sur le sens du carême avec l'ex-directeur des relations avec les musulmans au sein de l'Église catholique, Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon.
C'est ce mercredi pour les catholiques et les protestants. Ça sera à partir de lundi prochain pour la communauté orthodoxe. Ce long temps de carême qui est un grand temps de préparation à la plus grande fête liturgique, plus grande fête religieuse pour les chrétiens, qui est la fête de Pâques. Et donc c'est vraiment un temps de préparation de plus de 40 jours, en sachant que voilà, pendant tout ce temps, les chrétiens sont invités à prier, ils sont invités à jeûner, ils sont invités à lire la parole de Dieu, la Bible, et aussi ils sont invités à se rendre solidaires, à partager, à faire l'aumône envers les nécessiteux ou tous ceux qui seraient vraiment dans le besoin.
Et à l'occasion du début du carême, le pape François a adressé un message vis-à-vis du peuple ukrainien.
Le premier jour du carême, le mercredi décembre pour nous les catholiques, est vraiment un grand jour. Et nous sommes déjà, c'est un jour de jeûne, de prière, c'est un jour de célébration. Et au cours de la célébration, on recevra la symbolique des cendres. Et c'est une invitation, voilà, à transformer, à changer notre cœur. Mais il est évident que en cette année 2022, nous commençons le carême, j'irais vraiment dans l'obscurité, dans la peur, dans l'inquiétude, puisque tous nos regards sont tournés vers l'Ukraine, vers le peuple ukrainien qui est agressé et qui doit subir une attaque terrible, la guerre. Et donc, le pape François nous a tous invités, mais j'ai envie de dire, il a invité finalement toute l'humanité à rentrer dans une démarche de conversion du cœur et donc avant tout, prendre ses chemins de la prière, du jeûne, pour nous sentir en solidarité, non seulement avec l'Église d'Ukraine, mais avec tous ceux qui sont voilà victimes des bombardements, de tous ceux qui sont aujourd'hui en exil. Plus d'un million d'Ukrainiens ont dû fuir leur pays parce que c'était leur vie qui était en jeu. Et c'est vraiment pour nous voilà une prière pour la paix, et surtout aussi pour que nous devenions tous des artisans de paix.
L'ex-directeur des relations avec les musulmans au sein de l'Église catholique, Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Invité de Pluriel à 19h et 23h sera Diana Badiop, porte-parole d'Anne Hidalgo, candidate socialiste à l'élection présidentielle. Une émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.